l'intelligence artificielle qui analyse l'ensemble des conditions qui font qu'on peut démarrer. Donc, en plus, les bêtises que je dirai ici, parce que je suis sûre que vos questions seront intelligentes, mais pour mes réponses, je le suis moins, seront filmées en plus et disponibles pour la postérité, ce qui est absolument terrifiant. Maintenant, dire des bêtises en public, ça ne m'a jamais fait peur, mais dire des bêtises filmées et disponibles sur Internet pendant 10 ans, je vous avoue que ça commence à devenir stressant.
Elles sont analysées par les intelligences artificielles.
Si mes étudiants tombent dessus, je ne vous dis pas. Mon prestige, on va en prendre un coup sérieux. Bon, on a un petit robot tripode, peu mobile, très stable, poilu. Bon, je peux peut-être commencer, même
oui,
si...
Oui,
bon,
oui.
D'accord. Bon, alors, je vais commencer par vous dire en deux mots qui je suis. Donc, Sylvie Lenné, je suis professeure à l'Université Lyon 3 dans un domaine qui s'appelle les sciences de l'information et de la communication. Ça relève pour les catégories universitaires des sciences humaines et sociales. Moi, en ce qui me concerne, je travaille dans la partie sciences de l'information. La partie science de la communication, ce sont les personnes qui travaillent sur la communication des organisations ou sur les médias, la presse, la télévision, la mise en discours, de l'analyse qu'on peut faire du monde. Donc, ils sont clairement sciences humaines et sociales. Les métiers correspondants, puisqu'on gère des formations professionnelles aussi quand on est universitaire, les métiers correspondants au secteur communication, c'est en gros le journalisme. Moi, je suis du côté science de l'information. Les sciences de l'information, c'est assez vaste, mais en gros, ça tourne autour de la question de la mise à disposition de l'information, des documents, des connaissances à des gens qui essaient d'en trouver dans des systèmes d'information donc numérisés. En général, ça, c'est de l'informatique à la base. Mais étant donné qu'il s'agit d'une discipline qui relève des sciences humaines et sociales, on s'intéresse à l'aspect humain, à l'interaction homme-machine, au type de dialogue, à la manière dont on peut exprimer un besoin. Et il y a beaucoup de questions à se poser dans ce domaine. Moi, un des secteurs sur lequel je travaille en ce moment, c'est les mutations des formes d'édition, par exemple, ou des sujets un peu plus techniques comme les métadonnées qui décrivent des documents ou des objets divers, numériques d'ailleurs, dans des systèmes. Est-ce que vous voulez que je prenne un micro ou est-ce que ma voix porte bien? Ça va? Pour tout vous dire, à la base, je suis informaticienne, ingénieure informatique, avant de m'être lancée dans la recherche. À côté de ça, j'écris des nouvelles de science-fiction. Je suis une lectrice passionnée de science-fiction depuis très très longtemps. Voilà, je vais essayer de relier un peu les deux dans ce que je vais vous dire. Est-ce que je peux vous demander si l'intelligence artificielle est un secteur que vous connaissez particulièrement bien ou pas du tout? Pas du tout.
Un peu en SF, mais...
D'accord. Pas en tant que domaine de recherche?
J'ai fait un petit mémoire.
Mathieu, je le craignais
bien. Dans un labo d'IA, mais ça fait il y a beaucoup de...
Je ferais semblant de ne pas le savoir.
Mais c'était pas si vieux que ça.
Oui. Alors, si on commence par le côté recherche et si on essaie de se demander ce que c'est que l'intelligence artificielle pour les scientifiques, parce qu'en fait, dans le monde de la recherche, on parle assez peu d'intelligence artificielle. On utilise tout un tas d'autres termes ou d'autres concepts un peu plus précis d'habitude. Mais les types de chercheurs qui s'intéressent à la question, en gros, c'est d'abord et majoritairement les informaticiens. C'est assez logique. Mais vous avez aussi les roboticiens. Parmi les roboticiens, vous avez des gens qui travaillent sur les capteurs, sur la mobilité des robots. Donc, on dérive assez vite vers l'électronique, la mécanique. Mais vous avez beaucoup de chercheurs qui travaillent sur le traitement du signal et la reconnaissance des formes, ce qui est une forme dérivée de l'analyse numérique et des mathématiques, en quelque sorte. Donc, voilà, des communautés assez diverses. Et puis après, il y en a tout un tas d'autres qui se greffent. Puisque, pour vous dire un peu ce que j'ai fait moi, qui se rapproche du domaine, je me suis lancée après mes études d'ingénieur dans une thèse sur un domaine qu'on appelait le traitement automatique des langues, qu'on appelle maintenant plutôt l'industrie de la langue. Et mon travail de thèse consistait à travailler sur des outils qui faisaient de la condensation automatique de texte, ou plus précisément de l'indexation automatique, c'est-à-dire qui traitait des textes et qui essayait d'en extraire des fragments qui étaient particulièrement représentatifs de ce dont ça parlait. Heureusement que ça ne s'est pas mélangé avec mon activité d'auteur, parce que ça poserait des questions assez troublantes. En tout cas, pour faire ce genre de choses, et pour d'ailleurs aborder toute une partie du domaine de l'intelligence artificielle, quand on travaille sur le texte, ça veut dire qu'on a besoin de travailler avec des linguistes, évidemment, parce qu'il faut comprendre quelle est la structure du texte et son organisation à différents niveaux. Mais moi, j'ai pas mal travaillé, et c'est un courant important en ce moment aussi, avec des statisticiens, parce qu'on va travailler sur la répartition du vocabulaire, la fréquence d'utilisation des termes. Et en gros, mon travail de thèse, c'était un développement informatique qui se basait sur des réflexions menées d'une part par des linguistes et d'autre part par des gens qui faisaient de la statistique textuelle, de la lexicométrie. Voilà. Alors, interrompez-moi, moi, n'importe quand, parce que je ne sais pas si les mots que j'emploie vous parlent ou pas, et qui sont toujours très simples à expliquer en deux, trois phrases. Donc même à la limite, vous faites hop, j'arrête et j'explique.
La lexicométrie.
La lexicométrie, alors comme tous les machins qui se terminent en métrie, il s'agit de mesures. Comme ce qu'il y a avant, c'est lexique, ça veut dire qu'on s'intéresse au vocabulaire. Les formes les plus simples de la lexicométrie consistent à repérer tous les mots présents dans le texte et à compter combien de fois ils apparaissent. Et après, on peut faire des choses beaucoup plus sophistiquées sur cette base-là, comme de comparer la distribution d'un mot selon les textes dans lesquels il est employé. Et on peut, comme ça, aboutir à des raisonnements qui permettent de dire que des mots qui sont très présents dans certains textes et très, très complètement absents dans d'autres sont des mots très révélateurs d'un sujet particulier, et non pas des termes neutres qui sont présents quel que soit le sujet dont on traite. Voilà, donc sur des mesures de fréquence, on peut faire des hypothèses concernant l'intérêt du mot et sa spécificité par rapport à un sujet.
Est-ce que ça peut se combiner avec certaines notions, par exemple, de champ sémantique ?
Sémantique, alors. Voilà le grand mot autour duquel on va tourner bientôt et qui pose beaucoup de questions, parce que définir ce que c'est que l'intelligence, c'est pas évident, mais alors définir ce que c'est que le sens et la sémantique, c'est pas évident non plus. Donc, si tu veux bien, je mets la question un peu de côté. Et puis, oui, la sémantique, c'est clair que c'est le terme à la mode actuellement pour désigner la nature globale des projets que l'on mène sur cette base-là. Alors, pour revenir un petit peu sur des éléments historiques et situer quand est-ce qu'on commence à parler d'intelligence artificielle, vous avez sûrement entendu parler de Alan Turing, du célèbre test de Turing. S'il est intéressant, c'est surtout parce qu'il a été un des premiers à essayer de définir ce que c'était que cette forme d'intelligence que l'on essayait de créer, sans trop savoir d'ailleurs à quoi elle ressemblerait. Et donc le fameux test de Turing consiste à dire qu'on décidera qu'une machine est intelligente si, lors d'un dialogue que l'on met en scène dans une situation où la personne qui dialogue avec la machine, en fait, le fait à travers un écran d'ordinateur, n'a aucune vision de son interlocuteur, et si le dialogue, quel qu'il soit, se déroule d'une manière qui fait qu'à l'arrivée, celui qui discute n'a pas repéré d'aucune manière qu'il avait affaire à une machine et pense que c'était sans doute un être humain qu'il avait en face, alors on dira que la machine est intelligente. Il y a d'ailleurs eu assez rapidement des petits logiciels qui ont été développés et qui, à la limite, étaient capables de passer le test de Turing sans être pour autant des choses extrêmement sophistiquées. Il y a eu en particulier un programme qui s'appelait ELISA. Je ne sais pas si quelqu'un connaît ELISA ici. Évidemment, mais Mathieu, tu es en jeu. Tu as travaillé sur ELISA?
Non, j'ai joué avec. On se rend très vite compte que les réponses sont...
Alors, il y a des gens qui se sont laissés prendre parce que c'était tellement différent des formes habituelles du dialogue homme-machine. Mais le programme ELISA, il était basé sur le fait qu'il y avait dedans une petite base linguistique qui était capable, en gros, d'analyser la structure des phrases qui étaient dites par l'être humain, de repérer, en gros, où étaient les verbes ou les sujets, et qui voulait renvoyer systématiquement sous forme de questions. ELISA était censé être un psychiatre ou un psychanalyste qui vous faisait parler et à chaque fois que vous lui disiez quelque chose, il reprenait des éléments de ce que vous aviez dit, quelquefois en les situant à un niveau un peu plus global. Vous racontiez quelque chose à propos de votre papa, votre maman ou je ne sais qui, et il disait: parlez-moi plus longuement de la relation que vous avez eue avec vos parents. Il renvoyait toujours des questions. Enfin, Mathieu, qui a expérimenté, peut-être nous en dire un peu plus.
Oui, c'est le fait que ce soit un dialogue un peu contraint par la relation qu'on a avec un psychanalyste.
Voilà, c'est le principe du psychanalyste. Il n'a pas forcément des choses très importantes à vous dire, voilà. Mais il vous fait parler. Donc, voilà, c'est une des premières réalisations que l'on ait réussi à faire, qui fonctionnait, qui pouvait un petit peu passer le test.
Sinon, il y a des gens qui ont échoué au test de Turing, des êtres humains.
Il y a des êtres humains qui ont échoué. C'est la bêtise humaine.
Ça veut dire que le test de Turing est plus valable, il est passé
Il existe toujours. Je ne crois pas qu'on s'en serve fréquemment, parce que je pense qu'on a d'autres attentes maintenant vis-à-vis d'une intelligence artificielle que celle de lui demander d'être capable de soutenir une conversation, en fait. Est-ce que c'est un objectif qui est vraiment significatif? On ne s'en contenterait probablement plus. Mais très vite, on a commencé à travailler sur des aspects beaucoup plus précis de la question. Un des domaines qui a porté des fruits assez rapidement, je sais qu'il en a été question dans les tables rondes, c'est notre grand chercheur en mathématiques qui en parlait. Ce sont des outils de vérification, de démonstration de théorèmes, ou même parfois ça allait jusqu'à la démonstration de théorèmes assez simples, ce qui est déjà une forme intéressante de construction de raisonnement, parce que quand il faut aboutir à la démonstration d'un théorème et qu'on fournit le théorème, bien évidemment, il faut trouver quel est le cheminement, la construction de propositions logiques qu'il faut bâtir pour arriver au résultat que l'on cherche à produire. Donc, c'était déjà un beau défi, mais dans un domaine extrêmement précis, qui s'appuie sur un langage formel très restreint. Ce sera quand même une caractéristique de tous les systèmes à base de raisonnement que l'on va construire et qui donneront de vrais bons résultats. Les autres outils logiciels un petit peu de même nature qu'on a développés vers les années 60-70 sur ce modèle-là ou sur lesquels on a commencé à travailler, c'est les systèmes experts. Les systèmes experts, à la base, c'est la même idée. On va essayer de modéliser dans le système la connaissance qu'appliquent certains professionnels dans leur domaine, et puis ces systèmes vont être capables, quand on leur présentera une situation, d'aboutir à la conclusion à laquelle serait arrivé l'expert. Mais ça ne marche que dans des domaines très restreints et très ciblés. En particulier, ça marche dans... ça a été utilisé pour l'aide au diagnostic dans le domaine médical. Ça, j'imagine que François connaît, non, peut-être, je ne sais pas. Et ça a été utilisé aussi dans le secteur financier, dans le secteur bancaire, dans le secteur boursier, l'aide au choix de police d'assurance, l'aide, le conseil en placement financier, tout un tas de situations où, en fait, si un expert était intervenu, il aurait posé à la personne qui était en face de lui un ensemble de questions restreintes, pas potentiellement illimitées. Il se serait intéressé à un certain nombre de facteurs. Et puis, au fur et à mesure que les réponses arrivent, dans le domaine médical, c'est avez-vous de la fièvre, avez-vous tel ou tel type de symptômes, quels sont les éléments de votre passé médical. Mais chaque réponse, non seulement apporte de nouvelles connaissances, mais oriente et restreint la suite du dialogue. On a eu, pas forcément en même temps, et ce n'était pas forcément les mêmes outils, les premiers logiciels qui intégraient des fonctions d'apprentissage, des outils capables de s'améliorer à chaque fois qu'ils avaient une interaction, qu'ils aboutissaient à un résultat. Ça impliquait en général d'ailleurs que l'on dise au système si ce qu'il avait produit était bien ou pas. Mais des systèmes intégrant des fonctions d'apprentissage, vous en avez dans des outils logiciels assez simples. Il y a un certain nombre de logiciels OCR, reconnaissance optique de caractère, qui intègrent des fonctions d'apprentissage. Vous les faites travailler sur des textes. Alors vous connaissez sans doute, je ne sais pas si vous avez déjà travaillé avec ces outils, on a des petits OCR maintenant livrés en même temps que le scanner. Enfin, ça fait pratiquement partie des composants standards fournis dans un environnement logiciel. Mais certains qui sont plus sophistiqués sont conçus de manière à ce que vous puissiez traiter des documents imprimés un peu complexes par les polices qu'ils emploient ou les caractéristiques du papier sur lesquels ils ont été imprimés ou n'importe quoi d'autre. Vous les scannez, donc vous obtenez une image. Vous faites traiter cette image par le logiciel de reconnaissance de caractère qui vous fait des propositions. Il y a un certain nombre d'erreurs. Vous corrigez les erreurs pour avoir un texte correct. Et au bout d'un certain nombre de passages de ce type-là, le logiciel a acquis des compétences sur, par exemple, la reconnaissance de la police avec laquelle vous travaillez. Donc, à partir de ce moment-là, il fournira des résultats bien plus satisfaisants que ceux qu'il fournissait au départ.
Mais c'est encore plus manifeste avec les logiciels de reconnaissance vocale.
C'est pareil, oui. Et tous les outils pilotent la reconnaissance vocale, oui, c'est tout à fait intéressant et nécessaire parce que on a tous des manières de parler très diverses. La reconnaissance optique des caractères, c'est le genre de choses que dorénavant on appliquera plutôt à la reconnaissance de l'écriture manuscrite que aux polices de caractère atypique dont je parlais tout à l'heure. Donc effectivement, bien connaître l'utilisateur d'un outil pour mieux interagir avec lui, voilà un investissement que l'utilisateur est prêt à faire parce que c'est ce qui va lui permettre d'avoir de bonnes performances de son système.
C'est les logiciels de mail qui reconnaissent le spam.
Oui, mais je n'en connais pas qui intègrent des fonctions d'apprentissage. On peut les paramétrer.
On lui dit, par exemple, celui qui est intégré dans Thunderbird, mais dans les autres, ça existe aussi. On lui dit les mails qui sont du spam, ceux qui ne sont pas du spam. Au départ, c'est quasiment rien, et à la fin, il reconnaît très bien.
À la fin, il a identifié un certain nombre d'émetteurs ou un certain nombre de thèmes qui vous intéressent ou qui ne vous intéressent pas et qui vous correspondent à vous et à votre, et à votre profil.
Dans le cas des logiciels de reconnaissance vocale, personnellement, j'ai essayé d'en utiliser un dans mes études il y a 5-6 ans de ça, et 5-6 ans de ça, pour le développement logiciel, c'est absolument énorme. Et ce qui était amusant, enfin, si l'on peut dire, mais du coup ça posait des problèmes, c'est qu'avec ce logiciel-là, il enregistrait une voix, et malheureusement, c'était l'époque où ma voix était harmonieuse, c'est-à-dire muet. Ce qui se passait, c'est que parfois, à cause de la mue en cours du sujet, c'est-à-dire de moi-même, le logiciel n'avait plus à reconnaître que c'était bien moi qui parlais, et donc du coup, il avait tendance à se bloquer. Ou
ça marche mieux avec les filles.
Ben voilà, du coup, je sais pas. Mais du coup, maintenant que je prends du recul, je me dis que c'était très amusant parce que c'était le logiciel qui demandait encore à être développé. Je suppose que maintenant, ce genre de problème, on a trouvé une substitution où c'est beaucoup, le logiciel est beaucoup moins tatillon peut-être, je sais pas, j'ai jamais réessayé depuis, vu que j'ai appris à taper à une vitesse qui me permettait de me passer de ce genre de logiciel, mais par exemple en cas de rhume où la voix est très prise, où effectivement la, le problème est strictement biologique, le logiciel rencontrait manifestement un problème. Donc, du coup, c'est...
Oui, ceci dit, le principe de ces outils, ce serait qu'on doit reprendre l'apprentissage lorsqu'on ne se comporte plus de la même manière et qu'on est dans une situation différente. Mais je ne sais pas si on est en train de parler d'intelligence artificielle encore. On a des outils évolués, évolutifs. Le fait que l'outil soit évolutif est quelquefois considéré comme une des caractéristiques de l'intelligence, mais pas toujours.
En fait, c'est une des choses que j'ai apprises en tant que mémoire, c'est qu'il y a beaucoup de sujets en intelligence artificielle, et souvent, dès qu'ils commencent à avoir une application pratique et à se retrouver dans l'industrie, les gens ne considèrent plus que c'est de l'intelligence artificielle.
Exactement.
Même si au départ, il s'est sorti des labos d'intelligence artificielle. Donc, il y a quelque chose de très frustrant pour les chercheurs.
C'est exactement ce que je m'apprêtais à dire. C'est-à-dire que un des grands défis, ben il en était question aussi dans les tables rondes, un des grands défis qu'on a considéré comme vraiment relevant de l'intelligence artificielle a été pendant un temps le fait d'avoir un ordinateur qui soit capable de jouer aux échecs ou de battre un être humain aux échecs. On considérait que c'était un challenge extrêmement difficile et que probablement on n'y arriverait jamais. On avait d'ailleurs cette vision probablement parce que on pensait qu'on arriverait à un résultat satisfaisant en modélisant le raisonnement humain, c'est-à-dire en essayant en gros de faire quelque chose qui réfléchit au coup à jouer comme le fait un être humain. Il y a eu des ouvrages très intéressants sur la question. C'est l'époque des grands débats autour de l'intelligence artificielle avec des enthousiastes persuadés qu'elles allaient très vite exister, qu'on allait très vite les mettre au point, et des défenseurs tout aussi acharnés qui disaient qu'il était impossible que l'intelligence artificielle existe un jour, justement en raisonnant sur le fait qu'on ne pourrait pas modéliser le raisonnement humain. Alors un mot sur les réflexions de Dreyfus. C'est Dreyfus qui a fait ce procès à l'intelligence artificielle. Et qui disait à propos du jeu d'échecs, si vous êtes un joueur médiocre aux échecs, vous pouvez jouer et vous allez réfléchir au coup que vous allez jouer quand ce sera votre tour, en analysant une quinzaine de coups possibles, en les comparant et en prenant le meilleur parmi ceux qui vous viennent en tête. Mais si vous êtes un très très bon joueur, et même si vous raisonnez 3 ou 4 coups à l'avance, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le très très bon joueur n'analyse pas beaucoup plus de possibilités en allant beaucoup plus vite. En fait, il en examine à peu près le même nombre, il en examine aussi 15 ou 20. Simplement, celles qu'il va examiner, ce sera directement les meilleures.
Exactement.
Et il est très difficile de mettre en évidence la manière dont ces 15 ou 20 meilleurs coups ont été filtrés. Ce qui est sûr, c'est que le très bon joueur n'y réfléchit pas de manière consciente. À partir du moment où il n'y réfléchit pas de manière consciente, il ne peut pas expliquer comment il a fait pour sélectionner cela et comment il a fait pour réfléchir à cela. Ce qu'on appelle l'intuition, c'est en général une exploitation semi-consciente d'un tas de choses qui ont été perçues ou mémorisées. Et on sait aussi que pour devenir un très bon joueur d'échecs, entre autres choses, il faut jouer beaucoup. Ça ne suffit pas, mais c'est nécessaire. Hubert Dreyfus s'en est servi pour dire on n'arrivera jamais à modéliser cette phase au cours de laquelle, finalement, la vraie compétence, la plus significative, a été engrangée. Et ce qui s'est passé, ben, vous le savez, on a maintenant, vous aussi, vous avez sur votre téléphone portable ou votre iPad un logiciel qui joue aux échecs, et c'est très énervant parce que je sais pas vous, mais moi, dès que je me mets à des niveaux un peu élevés, je me fais massacrer tout le temps. C'est très énervant. Il fait jamais de bêtises, l'ordinateur. La stratégie qui a été adoptée pour développer les programmes, c'est extrêmement bourrin. C'est-à-dire qu'on y a mis des quantités et des quantités de parties mémorisées. quand l'ordinateur se trouve dans une situation donnée, il va chercher dans son historique toutes les situations de jeu similaires. Il va chercher parmi elles la manière dont ça a abouti à la fin, et il va aller chercher parmi les coups disponibles celui qui le resitue dans une perspective de jeu gagnant à l'arrivée. Mais en fait, c'est parce qu'il y a des milliers et des milliers de parties qui sont mémorisées. Donc, à partir du moment où on a résolu le problème de cette façon-là, il y a un certain nombre de gens qui ont dit, mais ce n'est que par l'accumulation des connaissances et pas par un quelconque facteur lié à l'intelligence qu'on a résolu le problème. Alors, du coup, on a commencé à dire, ben oui, mais ça marche, mais ce n'est pas intelligent. Mais plus largement, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Mathieu, plus largement, on a tendance à considérer qu'il existera une intelligence artificielle le jour où elle sera capable de faire quelque chose que seul un être humain est capable de faire. Mais le problème, c'est qu'à partir du moment où on a créé une intelligence artificielle capable de faire cette chose-là, logiquement, on ne considère plus qu'elle est intelligente. Oui.
Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'analogue avec des animaux, dont notamment des singes auxquels on apprend à parler, mais qui ne maîtrisent pas le langage, puisqu'ils n'inventent pas des mots?
Et ils maîtrisent le langage des signes, au moins partiellement.
Oui, mais est-ce qu'ils inventent des énoncés qu'on ne leur a pas appris?
Ce que je sais dans ce domaine, c'est que ils peuvent inventer des énoncés, mais la limitation, c'est que ces énoncés ne concernent que le domaine extrêmement concret. C'est-à-dire que un singe est tout à fait capable de demander à ce qu'on mette deux bananes du côté droit, par exemple. Mais il n'ira pas au-delà de ce qui concerne son environnement très physique, matériel et concret. Je crois que l'achoppement, il est plutôt là. Et dans la question de la généralisation, qui rejoint aussi la question du passage du concret à l'abstrait. Vous le répéterez pas à mes chers collègues du domaine, mais ils le disent eux-mêmes quand on est entre quatre yeux, assez vite, ce concept d'intelligence artificielle a paru peu satisfaisant aux chercheurs. Ils ont essayé d'y travailler en le désignant autrement, parce que la définition de ce que c'est nous échappe trop et qu'on n'arrive pas à en bâtir qui soit vraiment consensuelle et intéressante pour la diversité des communautés qui s'intéressent à la question. Mais on a quand même gardé ce terme pour vendre la recherche aux décideurs et aux politiques qui peuvent la financer. Parce que cette manière de l'exprimer a été très porteuse et que la recherche, pour avancer, a besoin qu'on lui donne des postes et des moyens. Et donc, quelque part, il faut convaincre des non-spécialistes de son intérêt. Donc, en parler avec ce vocabulaire-là, c'était une manière d'en parler qui était intéressante pour l'armée, par exemple, pour le ministère de la Défense ou pour d'autres. Mais voilà, ça a permis à des tas d'équipes d'avoir des financements, d'avoir des postes, de pouvoir lancer des thèses et de continuer à travailler. Et le marketing de la recherche, et c'est pas du tout la question qui va nous intéresser ici, mais c'est un sujet dont je discuterai volontiers en toute occasion avec qui veut. C'est un vrai problème. Moi, les gens avec qui je travaille actuellement, c'est là qu'on va rejoindre ce que tu disais. Je travaille avec des chercheurs de ce domaine, si on veut, qui travaillent sur le web sémantique. Le web sémantique, c'est l'Internet intelligent, si vous voulez. Le web sémantique, est-ce que vous voulez que je vous l'explique de manière un peu plus précise? Oui, je vais. C'est pas si difficile comme concept. Tout ce qui se trouve dans l'espace Internet, que ce soit des programmes, des données, des fichiers de toutes sortes, des ressources très diverses, tout est décrit avec des métadonnées. Des métadonnées, c'est de l'information sur l'information qui dit en gros de quoi elle parle, à quoi elle sert, comment elle est codée, qui pourra l'exploiter, qui l'a créée. Voilà, c'est une description des ressources numériques. Le projet du web sémantique consiste à essayer de construire des descriptions de telle manière que toutes ces ressources puissent se reconnaître entre elles et se relier à chaque fois qu'on a besoin de les associer. Et en fait, cette thématique est très liée à un gros problème, une approche très importante pour l'informatique actuellement, qui est celle des systèmes multi-agents. Est-ce que vous avez envie que je vous parle des systèmes multi-agents ? Ou peut-être que vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, c'est intéressant d'en parler. Si vous connaissez, je ne vais pas vous embêter. Les systèmes multi-agents, alors, l'exemple, je ne vais pas être original, tout le monde prend toujours le même exemple, ce qui est inquiétant d'ailleurs. Peut-être que ça veut dire que ce ne sera pas si généralisable que ça si tout le monde prend toujours le même exemple. Mais l'exemple habituel des systèmes multi-agents consiste à expliquer ce que serait un système qui vous aiderait à organiser un voyage. Si vous avez envie de faire un voyage et que vous avez une idée assez vague de ce que vous voulez faire, on pourrait imaginer une situation, et on commence à avoir d'ailleurs des outils de ce type, où vous décrivez le moment où vous êtes disponible. Vous voulez partir, je ne sais pas, pendant les vacances de Noël. Vous pouvez expliquer le budget dont vous disposez. Vous pouvez expliquer le type de séjour que vous avez envie de faire. Est-ce que vous êtes plutôt aventureux, plutôt farniente, plutôt culturel, le type de climat, si vous avez plutôt envie d'avoir chaud ou d'avoir froid. Est-ce que vous partez à plusieurs ou tout seul? Est-ce que vous aimez plutôt voyager en avion ou c'est plutôt le train qui vous plaît? Voilà, vous allez pouvoir, éventuellement lors d'un dialogue, fournir tout un tas de caractéristiques sur le projet que vous aimeriez que l'on vous aide à organiser. Ce qu'il y a à l'intérieur de... il ne s'agit pas d'une grosse IA qui serait capable de traiter cette demande-là. Par contre, ce qui existe déjà sur Internet, il existe... vous avez des agences de voyage, vous avez des transports, que ce soit avion, train, bus ou n'importe quoi d'autre, qui ont des sites web. Vous avez d'ailleurs à la limite aussi votre agenda qui est disponible en ligne et qui permet de voir à partir de quel moment vous êtes effectivement libre pour partir. Vous avez des hôtels qui ont leur site web en ligne avec les caractéristiques de confort, le prix, les prestations qu'elles vous mettent à disposition. Bon, tout ça, c'est à la limite, à la base, vous avez des petits programmes tout simples, hyper spécialisés, qui sont capables de traiter un problème donné ou de gérer un type de connaissance particulier. Ça, c'est un agent. Et les systèmes multi-agents, c'est des systèmes qui sont capables de les faire tous interagir entre eux. Mais il faut que, par exemple, résoudre des tas de petites questions locales pour relier tout ça. Si vous prenez un avion qui vous fait arriver dans telle ville, comment vous allez rejoindre l'hôtel qui vous intéresse, qui lui est peut-être dans une autre ville? Donc quels sont les moyens de transport qui permettent de passer de l'un à l'autre? À quel moment allez-vous arriver et repartir pour aller faire telle visite qui ferait partie de votre projet culturel qui, elle, est gérée par un autre agent? Donc voilà, le principe, c'est plein de petits programmes tout simples, mais on veut qu'ils travaillent ensemble, et la grande question, c'est pour qu'ils puissent travailler ensemble, il faut qu'ils puissent avoir un langage commun. Il faut qu'ils puissent être étiquetés de telle manière que ces représentations de services soient compatibles et comparables. Alors, les langages communs qui sont sur lesquels on travaille actuellement, ça s'appelle des ontologies. C'est un mot qui a été emprunté à la philosophie, mais qui n'a pas grand-chose en commun, et qui reprend un vaste projet qui a été un projet de bibliothécaire à une époque. Mais c'est logique, on est dans la même thématique de tenter de représenter l'ensemble de la connaissance disponible dans le monde. Il y a eu des grands projets dans les bibliothèques qui visaient à organiser toute la connaissance du monde en développant des classifications universelles. Melvin Dewey, la classification décimale universelle, étaient des grands projets qui visaient à trouver une manière d'organiser toute la connaissance de telle manière que, quel que soit le sujet dont on parle, on puisse savoir avec quel terme et sous quel indice du plan de classement, pour être un peu plus précis, on allait pouvoir le situer. Ben, on est un peu dans le même genre de questionnement avec les ontologies, et si elles ont une vocation universelle, le web sémantique au départ est un projet à vocation universelle, on va avoir pour objectif de trouver comment désigner tous les objets numériques du monde, si je peux dire, les services, les produits, les ressources, avec un langage commun. Les ontologies sont des langages formels, mais qui devraient aussi pouvoir être exploités par des êtres humains. Donc du coup, on se pose des questions de comment étiqueter les concepts, quels termes aller choisir pour les représenter. Mais c'est des questions extrêmement intéressantes, parce que au passage, si on arrivait à inventer des ontologies universelles, tant qu'à faire, on aurait des terminologies multilingues, et on aurait donc on passerait donc tout barrage lié au problème de la langue et du multilinguisme, et l'ensemble de ce qui est disponible dans l'environnement Internet deviendrait accessible à travers un filtre universel.
Il n'y a pas un projet qui s'appelle Babel dans le domaine web ?
Si, il y a plein de projets.
Est-ce que les thésaurus reprennent ce principe ?
Les thésaurus sont plutôt des outils documentaires, et comme les ontologies qui marchent bien, ça marche toujours bien quand on prend un domaine assez restreint. Et ça reste une constante. C'était déjà ce dont on s'était aperçu avec les systèmes experts. Quand on travaille dans un domaine un petit peu spécialisé, on arrive effectivement à avoir un contexte assez restreint pour que chacun des concepts qu'on manipule reste cohérent d'un usage à l'autre, d'une situation à l'autre. Et on fait des thésaurus qui fonctionnent ou des ontologies qui fonctionnent. Mais il n'y a pas de tentative de faire un thésaurus universel. Je peux vous raconter qu'avec Marc Michalet, qui est un des grands spécialistes de la science-fiction, mais qui est à Lyon, on est voisins, on ne se voit pas souvent, mais un jour, on a eu ensemble le projet grandiose de faire par des étudiants de l'ENSIB, l'École des bibliothèques, qui est à Lyon aussi, et qui cherchent régulièrement des sujets de mémoire pour valider le diplôme de conservateur. Il y a des lecteurs, évidemment, parmi eux, et puis il y a même des gens qui aiment la science-fiction. Et un jour, il y a des gens qui sont venus nous voir en nous disant « J'aimerais bien faire un truc sur la science-fiction. » On leur a dit « Génial, on va travailler sur un thésaurus de la science-fiction. » Ben, on s'y est cassé les dents. Et il a fallu réorienter le sujet. La science-fiction en elle-même est déjà un domaine beaucoup trop vaste pour que l'approche...
Sur la fantaisie, c'est pas ça.
Je suis pas sûre. Peut-être que si tu enlèves la fantaisie urbaine, toutes les formes de fantaisie un peu atypiques...
Il faudrait faire des thésaurus de thésaurus. Il faudrait faire des thésaurus.
Oui, mais alors, caractériser un thésaurus, les métathésaurus, je ne sais pas. Bon, alors, revenons à des choses moins cauchemardesques. Donc, pour reprendre la manière dont je vois, moi, actuellement, les recherches autour des thématiques de l'IA, j'ai pas parlé de science-fiction, là, faut que j'accélère. On a, d'une part, des gens qui travaillent sur les robots. Vous en avez ici. Ils ont fait aussi il y a eu des très belles journées à la Villette, à la Cité des Sciences à Paris, où il y a eu une très belle exposition il y a quelques temps. Vous avez des petits robots qui ont une forme humaine ou semi-humaine, ou qui essaient de s'en rapprocher, et on essaie de les faire se mouvoir dans des environnements réels, plus ou moins compliqués. C'est des problèmes très difficiles. Il faut des capteurs, il faut des tas de mécanismes d'analyse de l'environnement, donc ressentir est-ce que le sol sous les pieds du robot est horizontal, est-ce qu'il y a un escalier, par exemple, c'est un cauchemar pour les roboticiens, mais même une pente, c'est pas facile à gérer. Il faut des capteurs visuels, c'est-à-dire qu'il faut non seulement des caméras, mais des outils de reconnaissance des formes sophistiqués qui soient capables d'analyser l'environnement. Et ensuite, il faut avoir des réactions en plus adaptées à ce qu'il y a autour. On a actuellement des petits robots. Moi, je suis fascinée par la crétinerie de ce que font ces admirables machines si sophistiquées. En gros, maintenant, c'est extraordinaire. On a des machins avec des bras qui sont capables de prendre deux cubes qui sont à un endroit, et quand on lui dit « pose les cubes sur l'autre table », eh bien, ils arrivent à inventer tout seuls la séquence de mouvement qui va leur permettre d'aller chercher le cube et de le poser à côté, et puis après de venir chercher l'autre. Ça semble être un exploit technologique admirable, je veux bien le croire. C'est vrai que, dans le principe, c'est pas forcément spectaculaire, mais c'est tout à fait autre chose que ce qu'on a quand on a des robots d'usine qui ont des mouvements entièrement prédéfinis et préprogrammés. Y a donc effectivement un vrai pas qui a été franchi, même si on est loin d'avoir des choses admirables. Alors,
à une échelle bien moindre, moi je suis surpris de voir à quel point les jouets pour enfants, genre les poupées, les bébés et qui se robotisent de plus en plus, sont entre guillemets perfectionnés. Leur gamme de mouvements et de réactions à certaines choses évolue d'année en année apparemment, et de décennie en décennie. Et maintenant on se retrouve avec des poupées, a priori pour les petites filles, qui sont capables de pleurer quand on les nourrit pas, ou c'est des Tamagotchi surévolués.
Ben voilà, c'est le terme que j'allais employer. C'est au Japon effectivement qu'on fait le plus de travaux dans ce domaine. C'est tout à fait intéressant de parler des Tamagotchi. Je pense que c'est une thématique qui intéresse beaucoup le Japon parce que il y a des raisons culturelles. Il me semble que les animaux de compagnie sont interdits au Japon. Ou en tout cas, je me souviens avoir vu une émission, un reportage sur des lieux dans lesquels on pouvait louer des animaux de compagnie. On pouvait louer un chat pour le week-end, par exemple. Parce que avoir un chat à soi dans son appartement, c'était un luxe ou une impossibilité légale, mais ou peut-être que tout simplement la vie des gens qui voulaient avoir ces animaux domestiques était peut-être qu'ils n'avaient pas assez de temps libre pour s'occuper des animaux. Mais visiblement, il y a à la fois des problèmes de solitude, en particulier de beaucoup de gens qui sont célibataires jusqu'à des âges assez.
C'est pire que ça. Il y a une catégorie de qui a été créée, c'est les célibataires à vie. C'est-à-dire que le gouvernement a reconnu que ces célibataires-là masculins resteraient célibataires à vie.
Oui. Il y a des gros, gros problèmes de solitude, de gens qui se sont absolument seuls.
Très bien en France aussi.
Ça arrive à des gens très bien en France, mais c'est vraiment un problème de société. En France, il y a différents facteurs, mais ça peut être aussi des choix personnels. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent pour des raisons professionnelles ou des raisons de lieu de vie aussi. Quand on a une chambre dans un caisson qui fait 3 mètres sur 1,50 m, la vie de famille est peu envisageable. Enfin bon, peu importe, on n'est pas là pour parler du Japon, et puis je suis nulle sur le sujet, je dirais des bêtises. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une grosse attente sur des robots qui jouent un rôle d'animal de compagnie ou de compagnon. C'est vrai qu'on rêve de compagnons virtuels, et ils ne sont pas tous incarnés en 3 dimensions sous forme de créatures palpables, mais on a aussi des travaux avec des compagnons virtuels projetés sur un écran, mais capables d'interaction, de dialogue, qui vous sourient quand vous rentrez le soir, qui vous demandent si vous avez passé une bonne journée, qui ont un minimum de conversation ou d'échange avec vous, et qui répondent apparemment à un besoin affectif. Mais ce dont il est question ici, dans l'enceinte des Utopiades, les robots qui sont présentés, ils sont argumentés et vendus. J'entends pas au sens économique, j'entends au sens attente sociale. Leur justification ici est plutôt celle d'avoir des robots utiles. Et j'ai entendu déjà, vous avez peut-être suivi, vous ne le répéterez pas à toutes les horreurs que je dis. Des robots.
Sur Internet de toute façon.
Oh là là. Il y a une justification qui consiste à dire que les robots peuvent rendre des services. Il y a effectivement des gens qui ont besoin d'assistance au quotidien, des personnes âgées, des personnes qui ont des difficultés diverses. Le robot serait un compagnon toujours disponible 24 heures sur 24, pouvant déclencher une alerte médicale, pouvant répondre à un certain nombre de besoins du genre « vous avez besoin de téléphoner à quelqu'un, je vais vous mettre tout de suite à disposition l'appareil dont vous avez besoin pour engager le dialogue vidéo ou autre ». En fait, on revient très vite à des questions de marketing de la recherche. Il est évident qu'on est encore dans une phase où il y a beaucoup de travaux à faire sur des tas d'aspects liés à la reconnaissance des formes, l'analyse du signal, la compréhension du langage, le développement de la communication avec des êtres humains. Mais c'est ingrat de le vendre sous cette forme. Et il faut trouver comment le vendre à la société de manière à ce qu'elle en ait envie. Il faut répondre à des attentes sociales. Et je crois que les chercheurs sont tous en train de se demander à quelles attentes sociales ils doivent expliquer qu'ils cherchent à répondre. C'est peut-être pas les bonnes, je ne sais pas s'ils se trompent ou pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin de leurs travaux et que leurs travaux sont utiles. Ce n'est pas du tout pour les contester que je dis ça. Moi, personnellement, j'ai des doutes sur la notion de service à des personnes âgées, par exemple. Parce que je connais plein de gens qui n'ont pas de boulot en ce moment. J'ai plein d'étudiants qui cherchent comment financer leurs études et qui vont travailler chez McDo ou faire gardien de nuit et qui seraient peut-être très heureux qu'on leur propose de vivre avec une personne âgée, ce qui leur permettrait de disposer d'un toit, d'un couvert, de discuter tous les jours avec cette personne, d'avoir des vraies interactions de personne à personne. Et qu'en tout cas, ce serait plus écologique sur le très plan écologique d'avoir une créature biologique qui fasse ça, au-delà du fait que ça le nourrit et ça lui donne un boulot, que d'avoir une machine qui coûte très cher à fabriquer à base de composants non recyclables.
J'ai l'impression que l'amalgame problématique qui est fait avec ces machines, et surtout quand elles sont humanoïdes, c'est que dès qu'elles sont présentées au public, elles courent le risque de devenir des phénomènes de foire, en fait. Les gens vont être fascinés par ces machines-là, peut-être pas pour les bonnes raisons, parce qu'elles sont capables de danser, parce qu'elles sont capables de chanter ou autre, parce qu'elles sont capables d'aider quelqu'un à composer un numéro. Mais j'ai l'impression que malheureusement, dès qu'elles tombent dans le grand public, elles courent le risque, peut-être pas toujours, d'être déplacées dans leur utilité. En fait.
Je crois qu'on n'a pas encore défini quelle attente sociale on avait vis-à-vis de ces machines.
J'ai envie de dire que c'est l'inverse. On leur donne un côté humanoïde, parce que justement, c'est plus grand public. Donc, ça facilite les fonds, etc.
Oui. Alors, en tout cas, il semble qu'on soit en train de se rapprocher du projet de reconstruire un être humain. Alors, je me suis complètement laissée déborder par le temps, puis c'est votre faute aussi, vous posez des tas de questions. Donc, pour aller vraiment vers l'être humain et poser une question qui, cette fois-ci, prend une dimension un peu plus philosophique et puis qui nous renvoie à nous-mêmes, il y a des défis extraordinaires qui sont d'essayer de définir ce que serait une machine qui aurait une conscience. Maintenant, quand on parle d'intelligence, c'est souvent ce questionnement-là qui est au centre. Avoir une conscience de soi-même en particulier. Puisque le problème de l'apprentissage, on sait par quelle boule prendre. Je ne dis pas qu'on a complètement résolu la question, mais on a des approches possibles. La question de la conscience, par contre, c'est un sacré défi qu'on ne sait pas du tout par quel bout prendre. Peut-être déjà parce qu'il est très difficile de définir ce qu'est la conscience. Donc, d'autre part, il est très difficile aussi, quand on a affaire à une machine, y compris quand on en est le concepteur, de faire une différence significative entre quelque chose qui est une conscience et quelque chose qui semble se manifester comme étant une conscience ou qui ressemble à une conscience. Est-ce que quelque chose qui se comporte comme s'il avait une conscience, ça veut dire qu'il a une conscience pour autant? Enfin, Ce genre de questions, ça renvoie à toutes les questions qu'on peut se poser quand on travaille dans le domaine de la simulation. La simulation, c'est encore toute une partie de l'informatique dont on n'a pas du tout parlé. Et les gens qui travaillent sur des simulateurs se posent des questions sur la validité que ça a. Quelqu'un qui apprend à piloter un avion, actuellement, on ne va pas lui mettre un avion entre les mains, ça coûte cher, c'est fragile un avion. On apprend à piloter essentiellement avec des simulateurs de vol. On peut juger de l'intérêt et des performances du simulateur en jugeant de la qualité du pilote qui a suivi ce type de formation. C'est très indirect comme méthode de validation. Est-ce que le pilote est bon ou pas? Puis de toute façon, à un moment donné, il faudra bien le lâcher sur un vrai avion. En général, on met un copilote à côté. Et puis en général, ça se passe bien. Mais voilà, est-ce que la simulation est de la même nature que ce que l'on essaie de fabriquer? Bon.
Vous parlez de conscience, en fait, et oui. de niveau de conscience qu'on peut donner à une machine.
Pour l'instant, personne n'a osé dire qu'il avait donné une conscience à une machine.
Non, mais
la science-fiction en a beaucoup rêvé.
Je fais le parallèle avec des films que j'ai vus ou des livres que j'ai lus. Et vous dites, même avec les tests qu'on avait au début, qu'avec l'évolution, avec le temps, à chaque fois on affine et on dit que en fait, c'est dépassé à chaque fois. Et je trouve que en fait, c'est plus un problème comme vous disiez, de philosophie un petit peu, de se poser le problème de où est-ce que c'est la limite, plutôt que de science. Du coup, je ne vois pas trop la limite qu'on peut faire entre les deux. En fait. C'est pas très...
C'est pas des sujets faciles. Oui, effectivement, de la même manière qu'on s'est retrouvé coincé à essayer de définir ce qu'était une intelligence, mais on a contourné le problème en le prenant par différents bouts. On a dit, c'est d'une part la capacité de raisonner, et là on est plutôt du côté des systèmes à base de raisonnement, de l'interaction, de la communication, du dialogue, et puis on a dit d'autre part, c'est la capacité à se mouvoir dans l'univers, à être autonome. Et là, on est plutôt du côté des robots. Et puis on a dit aussi, c'est la capacité à analyser ce qui se trouve autour. Et puis après, on a travaillé en fait dans des tas de directions différentes. Il y a des gens qui ont travaillé sur les réseaux neuronaux, qui ont essayé de travailler non pas avec des systèmes à base logique binaire traditionnelle, dans une démarche de programmation. Structuré ou en gros on décompose la résolution des problèmes sous la forme d'un certain nombre d'étapes qu'on aura identifiées. Enfin bon, je schématise beaucoup, mais le principe des réseaux neuronaux, on essaie de simuler le fonctionnement du cerveau dans lesquels il y a des tas d'interconnexions qui se passent, on ne sait pas trop comment, mais il y en a potentiellement des milliards et des milliards qui peuvent se faire. Il y a donc des associations d'idées qui se créent, on ne sait pas trop comment. Mais les réseaux neuronaux, c'est des espèces de boîtes noires dans lesquelles il y a tout un tas de composants qui au départ ne sont pas reliés, mais auxquels on va faire réaliser toute une série de travaux. En fait, on retombe sur les systèmes à apprentissage en parlant de ce domaine-là. Mais c'est des systèmes à apprentissage qui ont pour caractéristique d'être effectués par des boîtes noires où on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. C'est souvent un petit peu ça l'apprentissage, mais là c'est dès le départ dans la conception de ce qu'est le logiciel lui-même. Pour l'instant ça fonctionne avec, on a des systèmes à couches, à chaque couche on rajoute un peu de complexité. Ceci dit, pour l'instant on serait à un stade où il y aurait quelques milliers de neurones, c'est rien du tout. Et on en a des milliards et des milliards, nous, dans le cerveau. Donc, voilà, on ne sait pas, il y a sûrement des sauts qualitatifs qui se passent, mais les neurosciences essaient de travailler dans cette direction. On n'a pas parlé des neurologues, mais si on parle d'intelligence, on peut s'intéresser au cerveau. Les gens qui travaillent sur le cerveau, c'est les neurologues. Donc, il y a toute une dimension des neurosciences où vous avez des informaticiens, des spécialistes de l'intelligence artificielle qui travaillent avec des neurologues qui sont eux plutôt du côté de la médecine.
Même des psychologues.
Et de la biologie. Et il y a aussi des psychologues. Tout à fait. Et il y a des psychocogniticiens.
la pathologie pour éclairer justement le négatif.
Je suis en train de m'apercevoir qu'on arrive au bout de notre temps et qu'on n'a pas parlé de science-fiction. C'est extrêmement frustrant, mais vous avez vu, je suis bavarde. C'est ma faute. On a, dans la science-fiction, je passe très vite sur le robot style Asimov qui se comporte comme un être humain. On ne sait pas trop comment il a été créé, mais il est en gros indifférenciable. Alors, première question, si un jour on arrivait à avoir un robot qui a une conscience de lui-même et donc des objectifs, des projets, des désirs, j'ai pas le temps de le développer, mais pour moi l'idée d'avoir une conscience de soi est indissociable de la nécessité d'avoir des pulsions, des désirs qui vous soient propres et qui sont profondément physiques et physiologiques à l'heure actuelle, et que l'on ne sait pas encore simuler pour l'instant. On demande à l'ordinateur de réagir ou de faire un certain nombre de choses, mais il a envie de rien, l'ordinateur. Et ça fait une sacrée différence par rapport à nous. Et simuler le fait d'avoir un projet ou une envie ou un désir, c'est une question extrêmement métaphysique et vertigineuse aussi. Enfin, on peut faire semblant, mais est-ce que ce sera pareil? Est-ce que la représentation est la même chose que la chose? C'est une très vieille question philosophique. Hein. Bon, alors, au-delà, il y a une autre manière d'aborder l'intelligence artificielle qui est celle de la lier au réseau, à Internet. Et on se rapproche un peu peut-être des systèmes multi-agents et de la vision du web sémantique. Peut-être que la fourmi n'a pas d'intelligence, mais peut-être que la fourmilière a une forme d'intelligence, même si nous n'avons aucune idée de la manière dont on pourrait communiquer avec la fourmilière. En changeant d'échelle comme ça, on a affaire à une autre forme d'intelligence, à une autre forme de dialogue qui est extrêmement mystérieuse. Nous n'en sommes qu'au début. La littérature de science-fiction a pas mal développé l'idée que c'est du réseau lui-même que naîtrait peut-être une forme d'intelligence un jour, et pas de chacun des composants des ordinateurs que l'on aura mis dessus et qui à eux seuls restent dans des processus beaucoup trop maîtrisés et connus et enfermés. Je me tais, vous avez sûrement des choses à dire, il nous reste 5 minutes. Sur la science-fiction, on peut parler de ce que vous voulez. Oui.
Est-ce que François, les probabilités bayésiennes sont utilisées dans les conceptions de...
Moi, j'ai travaillé avec des modèles probabilistes de Bayes qui... les modèles de Bayes, je faisais ça dans mon travail de thèse quand je faisais du travail du traitement automatique des langues. C'est le principe, c'est qu'on a des séquences d'événements sur lesquelles on peut établir des probabilités, ce qui fait que quand on est dans une situation donnée, on a un ou deux événements qui se produisent, on reconnaît le fait qu'on est dans une séquence et on peut faire des prédictions sur ce qui va se passer après, probablement. Et dès qu'on se retrouve comme ça dans des situations prédictives où on dit en gros on s'attend à ce qu'il se passe ça, c'est très intéressant parce qu'on peut commencer à prévoir que s'il se passe ça, alors on fera ça, mais par contre s'il se passe ça, on va aller dans un autre type de réaction. Oui, les modèles probabilistes, ceux-là ou d'autres, sont très très exploités dès qu'on fait de l'apprentissage et dès qu'on fait de l'analyse de séquences d'événements indéterminé. Comme on a su le mécaniser, est-ce que c'est de l'intelligence? On en revient toujours là. Ça n'en est peut-être plus parce qu'on sait dire ce que c'est.
Et que, comme pour être dans la science-fiction, comme conseil de lecture, et le roman de Jean-Michel Truong, Le successeur
oui,
de Pierre.
Oui, Le successeur de Pierre, oui. Qui est d'ailleurs, c'est un spécialiste du domaine. Hein. Oui, oui. Il est
justement, c'est un des rares romans de science-fiction où on n'a pas une intelligence artificielle qui est vraiment mimétique et sans qu'on explique pourquoi. Là, l'intelligence artificielle est assez étrangère finalement et est inspirée des différents domaines justement des labos d'intelligence artificielle. Donc,
oui, tout à fait. Il est dans un labo de pointe. Oui, il est intéressant.
C'est pas l'intelligence artificielle de science-fiction classique. C'est
Ceci dit, elle n'est pas toujours naïve, hein, l'intelligence artificielle de science-fiction.
Dans la culture, hein, si je ne dis pas de bêtises, mais les IA ont leur propre but.
Alors, à partir du moment où ils ont accédé à une forme de conscience et où ils ont leur propre désir, on peut imaginer que ces désirs les conduisent, par exemple, à réclamer la citoyenneté, à avoir un statut au milieu de la société. Ensuite, on peut imaginer que leurs propres désirs ne sont pas forcément compatibles avec les nôtres. Pourquoi ne voudraient-ils pas prendre le contrôle du monde? Et puis est-ce qu'ils vont pas considérer... Moi, j'aime bien Macno de Jean-Marc Ligny, oui. C'est un point de vue intéressant, c'est... Entre autres choses, on y trouve la vision que les intelligences artificielles ont des humains et de tous leurs défauts et de leurs faiblesses. Alors, évidemment, c'est une vision idéalisée des IA, hein, qui considèrent les humains et leurs limites. Mais de toute façon, cette idée, on l'avait déjà un petit peu dans 2001, déjà, avec Hal, qui considérait que si la mission était le plus important et la seule chose qui pouvait mettre en échec la mission, c'était la faiblesse du facteur humain qu'il fallait donc éliminer, puisqu'il y avait un objectif prioritaire. Et toutes les nouvelles d'Asimov sur les robots posent la question des objectifs ou des désirs propres des robots et de la manière dont ils vont être hiérarchisés et de la manière dont on pourra contrôler.
Ce que je reproche souvent à l'intelligence artificielle en SF, c'est qu'elles sont trop mimétiques de...
Alors moi, le conseil de lecture que je vous donne, c'est « Harlie avait un an » de David Gerold. Qui est un roman pas très récent, mais qui pose d'une manière extraordinaire la question du moment où la conscience s'éveille dans un programme informatique qui, du coup, est en train de devenir une IA. C'est le moment où il devient une intelligence, et il le devient par le dialogue qu'il établit avec l'être humain qui est en face de lui.
Ça ressemble peut-être un peu sur le principe, c'est le cycle... Éveil, merveille de Robert G. Sawyer.
J'ai pas lu ça. Comment tu dis, tu nous redis le titre?
Alors, c'est le titre en français, ça s'appelle Éveil. C'est, le premier tome, c'est l'éveil de l'intelligence, ensuite veille et merveille.
Éveil, veille et merveille.
Sawyer. Alors le,
ah oui,
le
Sawyer.
En anglais, je ne me rappelle plus. Ce qui est intéressant, c'est justement l'éveil d'une intelligence dans le réseau, c'est l'intégralité du réseau.
C'est une des thématiques qui découle tout naturellement du cyberpunk, l'omniprésence de la technologie, des réseaux.
L'autre chose intéressante,
on n'a pas parlé de Roland Wagner, il faudrait absolument parler de son AIA qui est extraordinaire, on va sans doute en parler.
Juste ça, c'est que contrairement à beaucoup de romans sur l'intelligence artificielle, elle n'est pas forcément... mauvaise en soi.
Ah non, non, elle est très fantaisiste d'ailleurs, elle a beaucoup d'humour, de légèreté, elle est très ludique.
Du côté mauvais, expéditif, tout récemment, on a eu Robopocalypse qui est sorti il y a un mois et qui pose justement le problème de l'intelligence artificielle qui se retourne contre les humains et qui va créer un programme multi-agent à l'échelle mondiale et qui va réussir à relier toutes les machines pour les amener à se révolter, en fait. Mais sauf qu'elle se révolte en 15 minutes, top chrono. En 15 minutes, elle prend le contrôle d'un serveur qui aurait permis aux humains de la couper manuellement et elle accède à la conscience presque immédiatement.
Alors, il y a plein de romans sur ce thème. Alors, moi, j'avais mis Le monde de la culture de Banks, évidemment Les robots d'Asimov, Les cavernes d'acier aussi, Harlie avait un an de Gerold, je vous l'ai dit, La cité des permutants de Greg Egan. De toute façon, Egan, il est génial sur ce thème-là, comme sur beaucoup d'autres. L'IA et son double de Westerfeld, qui est un très beau bouquin. Les histoires de robots de la grande anthologie de la SF, évidemment. Il y a Spielberg, hein, qui est quand même intéressant aussi, avec son AI.
Pinocchio,
oui. Mais c'est la thématique, c'est le mythe de Pinocchio, oui.
Oui, version robotique.
Oui,
très,
oui,
très,
mais
bien, très bien fait d'ailleurs.
Mais d'ailleurs pour
la conscience, c'est ça. Hein,
le rapport au Japon lié à ça, ils ont un rapport très, très particulier, Marianne. Oui. Alors moi, il y a une nouvelle que j'ai lue il n'y a pas longtemps, c'est une de Resnick, qui est assez extraordinaire, où c'est un curé qui a un robot qui l'aide. et qui écoute ses sermons et qui commence à se poser des questions théologiques et qui au bout d'un moment commence à croire. Et là, le curé, qui est quelqu'un de très ouvert, ça lui pose problème, parce qu'à un moment, le robot lui dit « Mais je crois en Dieu, etc. Est-ce que j'ai une âme ?» Et il ne sait pas lui répondre. Donc, purement philosophique, mais j'avais jamais vu aborder l'angle purement spirituel.
Mm-hmm. Fascinant pour la science-fiction, hein. À mon avis, il y a de quoi aspirer encore pas mal d'auteurs. Mais je crois que je vais me faire assassiner par ceux qui sont derrière la porte. Donc, merci pour... ces échanges intéressants et dynamiques, et continuez bien à profiter de tout ce qui se passe ici.
Je sais plus, mais c'est dans un galaxie.